Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Comédie, drame, des films qui vont attirer des spectateurs, d'autres qui vont peut-être n'en attirer que 20 000. C'est Cinérama dans sa diversité. Bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi on va parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler des Tuches 3 et puis d'un film américano-japonais, Oh Lucie.
Et pour ma part, eh bien, j'ai fait bonne pioche cette semaine puisque j'ai vu 3 bons films. Je vais vous parler d'un film kirghiz qui s'appelle Centaure, d'un film français Gaspard va au mariage et d'un film libanais L'insulte. On aura d'ailleurs la chance d'avoir la co-scénariste du film Joël Touma au micro de Cinérama.
Puis moi aussi, bonne pioche avec un film italien de Eduardo De Angelis, Indivisibili, et puis un film du tchadien Mohamed Saleh Haroun, Une saison en France, un film avec Sandrine Bonner. Mais on débute avec une comédie décalée, c'est Gaspard.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard.
Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père ?
Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi.
Gaspard va au mariage de son père, ou plutôt au remariage, et le problème, c'est qu'il y va tout seul. Heureusement, il croise la route de Laura, jeune femme un peu perdue mais résolument optimiste, qui va accepter de jouer le rôle de sa petite amie. Une fois l'accord effectué, elle se retrouve catapultée dans une famille pas comme les autres, propriétaire d'un zoo, qui vit ses derniers instants. Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier est un film profondément 68ard. C'est un peu l'antique Xavier Dolan. La famille est gangrénée par les problèmes, mais rien n'est vraiment grave. Rien n'est mis en scène de façon dramatique ou larmoyante. Le mari trompe sa femme, la fille se prend pour un ours et elle est amoureuse de son frère. La belle-fille n'en est pas vraiment une et la mère est morte dévorée par un tigre. Mais rien de tout ça n'est vraiment grave. Ce qui est séduisant dans ce film, ce qui est appréciable, c'est l'absence de morale, de puritanisme, de jugement d'une façon générale. Le film défend même une vision un peu mignonne de l'inceste platonique entre le personnage de Félix Moati et sa sœur interprétée par Christa Terré, et le tout est vraiment porté par un casting excellent, avec un jeu toujours légèrement à côté, décalé mais jamais faux, juste étrange. L'ensemble est donc très fantasque sans pour autant être dépourvu de gravité. On retrouve également Laetitia Doche, qu'on avait découvert dans Jeune Femme, et qui, je pense, est une sérieuse prétendante au César du meilleur espoir cette année. Marina Foïs également, Guillaume Guix et Joanne Eldenberg, vue dans Alabama Monroe.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée avec Gaspard ?
Ah, bah dans le train.
Un train ? Mmh. Quel train ?
Le train pour Bruxelles. On s'est retrouvés coincés dans un wagon à cause d'un problème de caténaire.
Tu veux que je discute un peu avec elle ? En fait, moi, je mourais de soif. Et ton frère est venu comme ça m'apporter de l'eau.
C'est drôlement romantique.
Et voilà.
Il t'a emmené où le premier soir ?
Le premier soir ? Il m'a emmené en fait dans un bar.
T'as un truc le plus original ?
Non, c'était hyper original. C'était parce que c'était un ice bar, tu sais ?
C'est quoi ça ?
Un ice bar ?
Ouais.
Un ice bar, c'est un bar, sauf que tout est en glace. On est un peu comme dans un igloo, en fait. En fait, on nous donne des doudounes à l'entrée. C'est vraiment génial. Ça te resterait beaucoup plus, toi, avec ta fourrure.
Je suis pas un ours polaire, en fait, ou que tu l'aurais pas remarqué.
Gaspard va au mariage est une chronique familiale douce amère en différents chapitres, vendue, je pense, à tort comme une fantaisie légère, alors que le film est plutôt sérieux dans ses questionnements sur la famille, sur l'amour et sur la fraternité. Sous des dehors assez fantasques, Gaspard va au mariage s'avère plutôt désabusé. La conclusion à tout cela étant que l'on cherche finalement tout au long de sa vie eh bien, la personne que l'on aimera plus que sa vraie famille. Le film est très sensible, sans jamais être nié. Pour moi, c'est une vraie réussite, mais il faut vraiment que les distributeurs, par contre, arrêtent de vouloir vendre le film comme si c'était la fille du 14 juillet, parce que là, le public va vraiment s'égarer, c'est pas le cas. Mais ça reste un très bon film.
Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille ?
Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille.
Eh bien merci, Gaspard va au mariage, c'est en salle depuis le 31 janvier. Un autre film qui est en salle depuis le 31 janvier, c'est Une saison en France, c'est la question de l'exil dans notre pays.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Il y a eu un film merveilleux qui s'appelait La blessure de Nicolas Klotz. C'était dans 2005, on y voyait le parcours d'une jeune femme africaine venant en France, un pays sourd à sa détresse, à sa demande d'asile. Une œuvre profondément humaine, hein, montrant avec précision le monde des marchands de sommeil et le parcours des sans-papiers arrivant en France pour se reconstruire. Un film réalisé par un Français. Avec Une saison en France du Tchadien Mahamat Saleh Haroun, on tient une autre vision de cette France qui n'est pas la première terre d'accueil pour celles et ceux qui fuient les pays ravagés par la guerre. La France est pourtant un pays tentant pour des Africains qui parlent notre langue, issus de pays tracés par la main des Occidentaux, comme la Centrafrique. C'est le cas d'Abbas, professeur de français à Bangui, qui a dû fuir la guerre civile et qui est arrivé dans notre pays avec ses enfants pour bâtir une nouvelle vie. Au passage, il a perdu la mère de ses enfants. Abbas a un boulot, comme beaucoup de demandeurs d'asile, qui ne restent pas les bras croisés. Il travaille sur les marchés. Là-bas, il y a rencontré Carole, fleuriste. Tout pourrait repartir si jamais il pouvait obtenir le droit d'asile, donc des papiers.
Ça fait 19 mois qu'on est en France. Ma sœur, mon père, tonton Etienne et moi. Nous avons quitté Bangui à cause de la guerre. Au cours de notre fuite, maman a été tuée par les miliciens. À Paris, papa a fait une demande auprès de l'OFPRA. C'est l'Office des apatrides ou quelque chose comme ça. Voilà. Nous avons vu un juge qui nous a posé plein de questions.
Comme son titre l'indique, Une saison en France décrit le quotidien d'Abbas et de sa famille pendant une saison, plutôt froide. L'intérêt de ce film est de placer ces personnages en exil en France plutôt que de construire l'histoire d'un parcours, d'une traversée, sans doute plus haletant. C'est le rythme même de cette saison qui est au cœur de tous les parcours. Entre les demandes, les recours, les refus, les appels de décision, les immigrés ont le temps de s'intégrer. Et dans cette saison, alors qu'Abbas tente de dénouer son destin administratif, eh bien on voit encore quelle relation il peut tisser avec Carole la fleuriste, qui accueille à bras ouverts les enfants d'Abbas. Des enfants qui n'aspirent qu'à une chose, évidemment, retrouver une maison plutôt que d'aller d'appartement en appartement.
Il faut que je vous dise quelque chose.
Ah non, on ne va pas encore changer d'appartement.
Si. Le monsieur qui nous prête l'appartement revient la semaine prochaine.
Papa, est-ce qu'un jour on aura un appartement à nous, comme tout le monde ?
De toute façon, on n'est pas comme tout le monde.
Pourquoi tu dis ça ?
Moi, j'ai plus faim.
Tu sors de table comme ça.
Quête des papiers, de la dignité, de la paix avec le pays qu'on quitte, quête de la liberté évidemment. Une saison en France est un film sensible, implacable, un drame teinté de documentaire. On voit notamment une scène violente se déroulant dans la Cour nationale du droit d'asile, alors empruntée à celle qu'a vécu un Tchadien et qui a inspiré le film à Mahamat Saleh Haroun. En privilégiant les plans séquences, le cinéaste prend le temps d'exposer son sujet, de lier les différents personnages et raconter autre chose qu'une histoire. L'humain est au cœur de ce film qui convoque tout l'univers des possibles. L'administration reste le grand hors-champ auquel réagiront pourtant les divers personnages qui attendent une décision de la France pour enfin accepter une histoire d'amour. C'est aussi simple que ça, un amour est plus simple à vivre sans la clandestinité. Une saison en France avance comme une tragédie, mais avec douceur, toujours en accompagnant ses personnages. Une certaine lenteur, mais sans pesanteur, s'y déploie. Le jeu de certains acteurs amateurs pourrait provoquer une certaine crispation chez le spectateur, si le sujet du film et l'humanisme qui y était à l'œuvre n'étaient pas si rares dans le cinéma. Le cas des réfugiés est un sujet d'actualité, évidemment, mais ce qu'on voit dans Une saison en France s'en sépare en se refusant le spectaculaire. Les personnages prennent toute leur place dans cette fiction documentaire, certes un peu aride mais captivante et critique sur la politique française en matière d'immigration. A noter que Sandrine Bonner interprète la fleuriste en question et qu'elle, elle vient d'une immigration un peu plus vieille, une immigration polonaise datant du siècle dernier. Voilà, Une saison en France de Mahamat Saleh Haroun, qui alors partage sa vie entre le Tchad et la France. Eh bien, c'est en salle depuis le 31 janvier.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, comme beaucoup de premiers films indépendants, O Lucie est à l'origine d'un court-métrage transformé en long suite à son succès dans divers festivals. Alors, Setsuko amène une vie solitaire à Tokyo, entre un travail monotone et un quotidien reclus dans son appartement. Un jour, sa nièce Mika lui fait une drôle de proposition. Elle l'aperçoit de la remplacer pour des cours d'anglais particuliers. Très particuliers, en l'occurrence. Déjà, le lieu est plutôt insolite, une sorte de sex shop avec des arrière-salles. On est loin de s'imaginer apprendre les langues, ou pas celles que l'on enseigne au lycée ou à l'université. Alors, affublée d'une perruque blonde, certainement pour faire occidental, Setsuko s'appelle désormais Lucie, lors d'une première séance singulière avec son professeur, John, un drôle de type dont elle va tomber sous le charme, voire peut-être amoureuse. Mais alors que Mika et John disparaissent, Setsuko décide de tout plaquer et embarque sa sœur pour retrouver les deux tourtereaux au sud de la Californie. Alors, coproduction américano-japonaise, hein, Olucy est dans un premier temps une réflexion subtile sur la confrontation entre deux cultures. Alors, débutant comme une comédie douce-amère, le premier long-métrage de Atsuko Hirayangi possède un charme réel que l'on doit essentiellement à la prestation des comédiens, tous parfaits. Shinobu Terajima incarne à merveille une femme solitaire en proie à la crise de la cinquantaine, sans jamais forcer son jeu ou dramatiser les situations. Elle est touchante et une étincelle traverse son regard à chaque plan. Elle est même souvent très drôle. Et face à elle, alors surprenant, hein, c'est Josh Hartnett, s'avère surprenant, hein, en beau gosse un peu largué. On retrouve aussi dans un petit rôle l'excellent Koji Yakusho, l'acteur fétiche des films de Kurosawa, Kiyoshi, hein, pas Akira, qui jouait notamment dans Cure. Alors ce portrait attachant d'une femme à la recherche de l'amour glisse progressivement de la comédie au drame doux amer. Il règne sur le film une atmosphère éthérée assez séduisante qui ne justifie cependant pas un long métrage. Le film tourne rapidement à vide après un excellent démarrage. L'originalité du point de départ se dilue dans une sorte de road movie conventionnel qui aborde certes des thèmes universels comme la recherche de l'âme sœur, le poids de la solitude ou le temps qui passe, alors tout en restant à la surface. Alors au moins le film évite d'être pesant, mais je dirais n'est pas Aung San Suu qui veut. La réalisatrice marche plutôt sur les traces d'un certain cinéma indépendant américain, un peu daté aujourd'hui, dans le sillon, on va dire, des premières œuvres de Suzanne Seidelman, c'était Recherche Suzanne désespérément, ou alors de Jim Jarmusch, sauf qu'il manque ici une mise en scène convaincante, hein, fonctionnelle. Elle se contente d'illustrer à coup de champ contre champ un scénario qui perd de son intérêt dans sa deuxième partie. Alors au final, hein, Olucy est une sympathique, on va dire, comédie romantique entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment ça non plus. Alors très attentive à ses personnages de désaxé, mais un peu trop vaporeuse et superficielle pour sortir du lot. Hein. C'est agréable, mais assez vite oubliable en fait.
Ce sera le film avec le ton en dessous, mais on va remonter d'un cran avec l'autre film, Marine, qui est très réussi, celui-ci, L'Insulte. Et ce sera l'occasion d'écouter la co-scénariste Joëlle Tourma.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Voilà. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Beyrouth, de nos jours, une simple insulte va prendre un tour politique et social inattendu et littéralement embraser le pays. Tony, qui est chrétien et libanais, et Yasser, immigré palestinien, ont tous deux vécu de plein fouet la guerre civile 30 ans auparavant. Et ils entrent un jour en conflit pour une raison qui pourrait sembler anodine, mais l'altercation vire à l'insulte et il n'en faut pas plus pour éveiller les rancœurs de tout un pays où cohabitent de nombreuses appartenances religieuses et culturelles, un pays qui n'a toujours pas fait face à son passé. Alors, le réalisateur Ziad Doueri, à qui l'on doit le controversé L'Attentat, ainsi que la très bonne série politique Baron Noir, signe un film magistral à l'écriture soignée, intelligente, un drame social qui devient un film de procès, sans jamais ennuyer ou perdre son spectateur, pourtant peu concerné par l'histoire du Liban. Eh bien, ici, tout devient limpide, tellement c'est bien écrit. D'ailleurs, le film va représenter son pays aux Oscars. On a eu la chance de rencontrer Joëlle Tourma, qui a partagé la vie du réalisateur, et cela à son importance, notamment par rapport au scénario du film, et qui est également la co-scénariste de L'Insulte. On l'écoute au micro de Cinérama nous parler de la genèse de L'Insulte.
Alors peut-être qu'au départ, on ne savait pas qu'on allait remonter aussi loin. Maintenant, il y avait la volonté de prendre un petit incident et d'utiliser tout ce qui fait Beyrouth, son histoire, son présent, les 18 communautés religieuses, donc 18 opinions différentes de toutes les communautés qui vivent tous ensemble dans ce territoire minuscule qu'est le Liban. C'était d'utiliser ça pour faire monter la tension. Et là, en fait, automatiquement, le passé revient. Le passé qui est la guerre civile, qui est le fait que rien n'a été résolu, rien n'a été réglé, rien n'a été discuté à un niveau national, qu'il y a eu en 1990, à la fin officielle de la guerre du Liban, une amnistie générale pour tous les seigneurs de la guerre qui sont aujourd'hui encore au pouvoir. Donc les gens n'ont rien eu entre les mains pour résoudre tout ça. Et c'est vrai que ça peut très vite devenir explosif. Ça peut partir de rien et ça peut très vite devenir explosif. Alors à partir de là, naturellement, je pense qu'on est revenu sur plein de choses, oui, qui appartiennent à l'histoire, au passé, enfin l'histoire récente, qui est donc la guerre civile qui a duré de 75 à 90. Le procès, cette salle de tribunal, devient un cadre sain où pouvoir en fait parler de tout ça. Parce que dehors, effectivement, ça dégénère. Donc ça devient peut-être ce qui aurait dû arriver peut-être à un niveau national. Donc bon, là c'est un film, hein, nous on fait ce qu'on veut et finalement cette salle de tribunal devient un espace, un cadre qui est sain pour que finalement ces deux versions de l'histoire puisse s'affronter sans que ça soit mortel, mais que ça puisse être constructif et voilà, rapproché. Il n'y a toujours pas de livre d'histoire au Liban, à l'école. Le livre d'histoire s'arrête avant la guerre civile parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur la version qu'ils veulent raconter. Donc, bon, il y a beaucoup de non-dits. Oui. Et c'est finalement ça crée des tensions. On savait qu'on allait avoir un public libanais qui connaît tout ça très bien, donc on n'avait pas envie de leur mettre des trucs à la cuillère qu'eux connaissent très bien. Et à la fois, on savait qu'on voulait aussi que le film ne soit pas uniquement vu au Liban et qu'il soit compris par un public qui ne sache rien de cette guerre. Donc vraiment, c'était difficile de trouver la bonne dose pour que finalement ce contexte soit suffisamment clair pour qu'on s'intéresse au personnage. Parce que finalement, on n'a pas envie de faire une leçon d'histoire, ça ne nous intéresse pas. On a envie de raconter l'histoire de ces deux êtres humains. Et pour que les gens puissent s'intéresser à ces deux êtres humains en tant qu'êtres humains et à ce qui leur arrive, il faut que le contexte passe de manière claire. Et oui, c'est assez difficile de se mettre à la fois, de se placer à la fois en tant que Libanais et en tant que finalement personne qui ne sache rien et qui ne soit pas envahi par une quantité incroyable d'informations. Hier, quelqu'un me disait le film est objectif et il y a des mois, spontanément, on a dit non, le film n'est pas objectif. Alors bien, le film n'est pas non plus, il ne prend pas parti non plus. Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'à chaque fois justement qu'on penche vers l'un des personnages, on est à fond avec lui. Et c'est en ça qu'on trouvait que c'était pas non un film neutre et objectif. C'est qu'à chaque fois, on y va à fond. Non, mais c'est lui, l'autre, c'est vraiment... c'est lui, l'autre, le méchant. Et puis après, on bascule et on rebascule parce qu'on était vraiment à fond à chaque fois avec chacun des personnages. Ça nous faisait peur, hein, les scènes de procès, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais finalement, on s'est rendu compte en écrivant les scènes de procès que ce qu'on mettait dans la bouche des avocats, c'était pas tellement des articles de loi, c'était des arguments finalement psychologiques, politiques, voilà, qui finalement ressemblaient à d'autres dialogues qu'on aurait écrits, qui n'étaient pas finalement des scènes de procès. Mais je pense que là où c'était a dû être difficile, c'est de les filmer surtout. C'est Ziad et les acteurs qui ont fait un travail formidable là-dessus.
Voilà, c'était donc Joël Touma, la co-scénariste de L'insulte de Ziad Doueri, qui est en salle depuis le 31 janvier. On vous le recommande chaudement.
Et à noter que Karim El-Bacha a remporté un prix d'interprétation à Venise où le film était présenté. Donc autant dire que ça marche plutôt bien pour L'insulte.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Après 6 mois d'une campagne électorale acharnée, nous sommes tout proches du dénouement. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1... Jeff Tuch, élu avec 57% des voix.
Bah, tout est dit, hein, voilà, ce premier spoiler. Alors bon, on retrouve les mêmes, hein, les braves habitants de Pouzol sont de retour après leurs aventures mouvementées à Monaco, puis aux États-Unis. Jeff Tuch est même devenu maire, tout fier d'inaugurer le passage du TGV dans sa petite gare. Alors ce qu'il a zappé, c'est qu'il s'agit bien d'un passage et non d'un arrêt. Mécontent, il tente de contacter le président en personne pour lui faire part de son mécontentement. Devant la possibilité de joindre l'Élysée, une idée de génie germe dans le cerveau déjà bien chargé du ch'ti préféré des Français après Danny Boone, qui décide de se présenter aux élections non pour devenir président, mais pour faire entendre sa colère, soutenu par sa petite famille, du fils gay un peu débile dans le film, de Stéphanie, sa fille, ex-Miss Pouzol, Madame Tuch, experte en patates, Mamie Suze qui a viré métalleuse et s'inscrit d'ailleurs sur des sites de rencontres. Jeff Tuch part en campagne et finit par quelques concours de circonstances aussi crédibles que si Mimi Mati était sélectionnée pour la Coupe du Monde de foot, par devenir président de la République, sans programme hormis l'arrêt du TGV dans son village natal. Seul le fils, hein, l'intello de la famille en pleine dépression, ne participe pas à l'aventure.
Jeff Tuch, quel est votre programme ?
J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice.
Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait.
Élu avec 57% des voix.
Ouais !
Et voilà les cuisines de l'Elysée.
Wow. Ah, la cuisine de bâtard.
Prévois la sauce samouraï.
Samouraï.
C'est la mayonnaise qui pique, elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï.
Ça va aller, ça va aller.
La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer. Et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser.
Jean-Pierre Pernaut dans son propre rôle.
Oui, bah c'est un peu agaçant à la limite. Hein. Mais ça, c'est une des choses qui m'a fait le plus rire, l'histoire du jour férié. Hein. Alors après un Tuche 2 foireux, le nouveau film d'Olivier Barou, ex-complice de Cadmerade, redresse, on va dire, un tout petit peu la barre hein, pour peu qu'on soit indulgent et adepte d'un humour bas du front. Alors ne parlons pas de gags, parce qu'il n'y en a pas. C'est le grand absent d'ailleurs des comédies françaises contemporaines, car qui dit gag dit mise en scène ou du moins un dispositif visuel un peu élaboré. Dans les Tuches 3, l'humour grassouillet passe par un comique de situation et de langage. Alors certaines répliques font mouche, hein, on rit parfois à l'absurdité de séquences régressives mais assumées. Le film aussi constamment entre le navrant et le réjouissant, avec une régularité métronomique, l'un ne l'emportant jamais sur l'autre. Alors, on ne passe pas vraiment un mauvais moment, les comédiens étant tous bons, avec une mention spéciale de l'excellente Claire Nadeau en Mamie qui déchire sa race. Alors, toujours adepte d'un langage incompréhensible à base de borborygme. Alors, visuellement, c'est très moche, à l'image des fictions télé produites par TF1, d'ailleurs largement partenaire ici, puisque avec Pernaut en tête au journal télé, qui revient quand même régulièrement dans le film. Alors, les Tuches 3 est ce qu'on appelle un pur produit, on va dire même un manifeste populiste qui a le mérite de jouer le jeu jusqu'au bout. On peut trouver l'ensemble amusant si on pose son cerveau à l'entrée du cinéma. On peut aussi être allergique à cette comédie ringarde, parfois douteuse, qui a une fâcheuse tendance à enfermer le pauvre dans une imagerie d'abruti congénital avec un bon fond. Voilà. Alors, tout en se moquant aussi des pseudo-artistes citadins et puis évidemment des politiciens véreux. C'est pas très neuf, je trouve que c'est un peu limite quand même.
Eh bien, on va aller dans une autre atmosphère. On va passer, eh bien, du peut-être 3-4 millions d'entrées à un film kirghize. Eh oui, c'est Cinérama.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Oui, on passe à Centaure. Alors, cette semaine, parmi les sorties ciné, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir, une fois n'est pas coutume, un film kirghize. Du Kirghizistan, donc pays situé entre la Chine et le Kazakhstan, et pays du réalisateur Akhtan Arimkoubat, qui est, il faut quand même le dire, l'un des seuls représentants actuels du cinéma de son pays. Après plusieurs films remarqués comme Le voleur de lumière, il revient avec Centaure, primé au Festival de Berlin, qu'il réalise et dans lequel il interprète le rôle principal, celui de Centaure, justement. Un ancien projectionniste de cinéma dans une petite ville des montagnes, dans laquelle eh bien, la salle de cinéma est devenue une salle de prière depuis que l'islam radical s'est imposé. Alors la nuit, Centaure vole des chevaux pour le plaisir de les faire galoper librement sous la lune. Des chevaux qui, selon lui, symbolisent la tradition kirghize et que l'on ne respecte désormais plus. Alors la thématique commune aux trois premiers films de Akhtam Arimkoubat était « Je me souviens et j'ai mal », comme il le dit lui-même, et il ambitionne de commencer une nouvelle trilogie avec Centaure dont le thème central serait « Je vis et j'ai mal ». On continue donc dans l'optimisme et la joie de vivre. En effet, ici, à travers cette histoire de voleur de chevaux et pris de liberté, eh bien, il est surtout question de la radicalisation de son pays, dans lequel il y a désormais plus de mosquées que d'écoles. C'est en cela un film très militant et très défaitiste également, car le réalisateur ne propose guère de solutions ou d'espoir. Son personnage incarne la défense de la tradition contre la modernité, modernité qui s'avère finalement eh bien, très rétrograde. Bon, néanmoins, ce dont le réalisateur ne parle pas, hein, c'est que son pays a quitté une tradition extrêmement patriarcale pour entrer dans un extrémisme religieux et que même s'il semble se soucier davantage des chevaux, bah, les femmes n'étaient quand même pas mieux traitées avant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Sinon, le film vaut réellement le coup d'œil, il est beau. Sans être poseur, en fait, dès que le réalisateur fait un plan sublime, il l'interrompt assez vite, comme s'il refusait comme ça de se regarder filmer. Il utilise pas mal de plans larges pour magnifier les paysages du Kirghizistan. Et le film baigne dans une très belle lumière, souvent crépusculaire. Alors bon, il se donne le beau rôle, hein, celui du fringant quinca, la crinière soyeuse, version kirghize du cow-boy solitaire qui murmure à l'oreille des chevaux. Mais il est très crédible dans son rôle. On sent que le sujet du film lui tient beaucoup à cœur. Et Centaure s'avère une vraie réussite, en plus du coup d'être un film très original dans le paysage cinématographique actuel.
Nous passons maintenant à Indivisibili.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Le cinéma italien semble se porter plutôt bien en ce moment après Fortunata, dont on a parlé la semaine dernière, qui est encore dans les salles. Eh bien, voici Indivisibili, un film de Eduardo De Anglis, où comment raconter l'histoire de la fin de l'adolescence au travers de l'histoire de deux sœurs siamoises, sans pour autant verser dans le film de monstres. Ce film qui concourait au Festival de Venise, alors n'y a rien remporté, hein, mais il a fait un carton plein au Davis di Donatello, hein, l'équivalent des Césars italiens. Pas moins de 6 prix lui sont revenus, dont le prix du meilleur scénario original. Indivisibili met en scène deux sœurs jumelles, donc Viola et Daisy, qui vivent à Castel Volturno, en Campanie, au nord de Naples. Alors, ces deux prénoms sont empruntés aux deux interprètes du célèbre film Freaks de Todd Browning, où l'on voit deux véritables sœurs siamoises. Le réalisateur italien assume d'autant mieux cette filiation que ses personnages à lui, eh bien, ont une petite carrière artistique. Les deux siamoises ne sont pas dans un cirque, hein, comme dans Freaks, mais chantent pendant les mariages, les communions, et même pendant qu'on y est, les anniversaires, et quand il le faut, eh bien, lors de processions religieuses, où elles sont transformées en vierges portant des stigmates dans le creux de la main. Ça aide le curé à récupérer de l'argent auprès de ceux qui veulent bien y croire, œuvre laïque et religieuse, même combat. Alors cette activité artistique rapporte beaucoup d'argent à la famille, hein, dont le père est devenu un véritable entrepreneur de spectacle, mettant dans la combine sa femme largement camée et ses deux beaux-frères. Alors si tout semble aller comme il faut pour les deux jeunes filles, quasiment coupées du monde, leur vie bascule quand un médecin les examine et leur apprend qu'elles peuvent être divisées. C'est comme dire à deux jumelles que l'une va aller étudier le droit à Vladivostok pendant que l'autre ira à Johannesburg. Un dilemme, un véritable défi, une angoisse, c'est le thème du film, traité de la séparation et de la douleur qui l'accompagne, de la manière presque la plus évidente en mettant en scène une séparation physique. L'une des sœurs semble vouloir se libérer pour enfin être amoureuse, quitter la ville, tandis que l'autre sœur a bien du mal à voir dans cette séparation eh bien une aubaine. Le caractère dissemblable de ces deux jeunes filles nous est montré dès les premières images et va conditionner les épreuves qu'elles vont traverser. Tandis que l'une semble se caresser le bas du ventre, donnant du plaisir à l'autre, pourtant endormie, eh bien on voit dès le matin que celle qui a été ainsi manipulée va dessus pouvoir se confesser. C'est en usant de contrastes qu'Eduardo De Angelis conduit son film. Alors, mis à part le business des deux siamoises, rien n'apparaît normal. De cette famille ne transparaît aucun amour, les parents se détestent copieusement et le père Roublard n'a pas d'autre plan de vie, hein, finalement, que de condamner leur fille à la scène en empochant les gains. Si les deux alors, sont avant tout montrés comme de très belles filles, le réalisateur a placé dans son métrage une séquence déroutante où l'on voit un personnage amoureux des anomalies les convier à une fête, alors sur son yacht. Un clin d'œil d'autant plus appuyé à Marco Ferreri que le personnage s'appelle Ferreri. Alors, contraste également avec l'Italie qu'Eduardo De Angelis dépeint. On a beau être au bord de la mer, c'est une région qui semble sinistrée, où les deux siamoises passent pour des bénédictions. D'ailleurs, pour leur père, si elles décidaient de se séparer, eh bien, ils quitteraient également une situation envieuse et deviendraient pauvres comme tous les autres. C'est ce que dit leur père à chaque fois, en les menaçant presque. Alors, rythmé par des musiques originales, dont on a entendu quelques extraits, eh bien, paraissant dépeuplé et focalisant ainsi sur les deux siamoises, Indivisibili est un film fantasmagorique, étonnant et suffisamment audacieux finalement pour convaincre. C'est vraiment une douce atmosphère. Et c'est dans les salles depuis le 31 janvier.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il ne va pas contrôler qui est qui.
Quoi qui est qui?
Bah quoi qui est qui quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Cette semaine, nous avions vu des bons films. La semaine prochaine, on espère que ce sera encore le cas. Moi, j'aurais vu Jusqu'à la gare, notamment.
Et moi, Stronger, le nouveau film avec Jake Gyllenhaal.
Et moi, Revenge de Coralie Farja, ainsi que le documentaire Être plutôt qu'avoir.
«
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.